Pour la revue de presse des Hebdo, on retrouve Arlette comme tous les vendredis. Salut Arlette.
Salut Léo, salut. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyons polis quand même.
Du lundi 6 au vendredi 18 février 2023, l'Assemblée nationale n'a pas débattu, ou si peu, sur le projet de réforme des retraites. L'exécutif avait limité le temps d'examen de cette loi, pourtant très importante, en utilisant l'article 47.1 de la Constitution.
Oh, dis donc, t'es bien informé.
Ah, t'as vu, j'ai fait mes recherches.
Ouais.
Des milliers d'amendements, les invectives et les injures de l'opposition ont fait le reste. Le projet est maintenant examiné par le Sénat.
Et cet examen, examiné par le canard enchaîné, bien sûr. Alors, à la une, l'édito. En train de sénateur. En train.
Eh oui.
Bien sûr. Analyse le soutien du Sénat de la droite majoritaire qui sauve à la fois le débat et l'examen de la réforme. Mais la rue aussi va donner son avis. Il y a des manifs mardi. Un avis très négatif, partagé par plus des trois quarts des sondés. Alors toujours à la une, un article indispensable pour comprendre le pourquoi du comment de l'inflation. Et vous comprendrez facilement qu'il n'y a pas que des perdants. Et dans la mare au canard, le Sénat, les sénateurs et les retraites ont la vedette, mais pas que. Informez-vous de toute urgence sur ce qui se trame dans le domaine de la surveillance des risques nucléaires. Les avis des experts de l'IRSN dérangent. Leur publication rapide encore plus, à l'heure où il est question de développer notre parc nucléaire. Et mon petit scandale de la semaine, repéré dans la chronique Zigzag. Le CNRS, forcé par la ministre de déguerpir, Sylvie Retailleau a décidé de vendre le bâtiment moderne, donc en très bon état, du site du CNRS de Meudon-Bellevue, qui abrite des services du CNRS et où doit se dérouler incessamment son concours de recrutement. Alors tous ses occupants doivent déguerpir dans les plus brefs délais. Sans quoi, le 14 avril, le permis de construire des promoteurs acquéreurs, qui vont d'abord démolir le dit bâtiment, bien sûr, sera obsolète.
Les invectives et les injures ont tenu lieu de débat à l'Assemblée. Cet épisode peu reluisant a inspiré le 1.
Et son titre n'est pas une question. Je te parle, moi non plus. Et il faut voir comment on se parle, ajoute Patrice Trappier en citant Alain Souchon dans le Zakouski. Dénigrement et imprécation se nomment désormais bashing et trolling. Des insultes volent jusqu'à l'Assemblée où chaque camp fourbit ses spécialistes en petites phrases assassines, alimentant l'info en continu. Selon Montaigne, la parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Dans ce numéro, le metteur en scène, dramaturge et écrivain Gérard Garuti, alerté par tous ces désordres verbaux, a décidé d'agir. Il a écrit un manifeste pour les arts de la parole et fondé à Aubervilliers le Centre des arts de la parole. Dans son papier intitulé « Les sept piliers de la parole », il écrit « Au commencement était le verbe, à la fin, le verbiage. Bienvenue dans le riposte modernité, cet âge machinal où l'on retransmet sans savoir. On confond dialoguer et dégommer. Voici venu le règne du verbe irresponsable. » Alors après ce constat affligeant, il réagit. « Je conçois les arts de la parole comme des arts de construction collective, capables de réconcilier la société et de sublimer notre humanité. En ce sens, je définis et réunis comme les sept arts de la parole, le théâtre, le récit, la poésie, les arts de la création, l'éloquence, la conférence, les arts de la transmission, le dialogue, le débat, les arts de l'interaction, afin de se parler plutôt que s'entretuer, se parler pour se relier, pour former, transformer, rassembler, rayonner, pour fédérer et grandir ensemble. » La journaliste Monique Atlan et le chercheur enseignant Roger Paul Droit dialoguent. Ils nous parlent évidemment de la parole et de l'art de parler et de l'influence du web. L'émergence des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, le jeu des algorithmes ont créé un phénomène inédit. Tout le monde peut prendre la parole, en considérant qu'il n'y a plus d'experts autorisés. Chacun donne son opinion, chacun devient expert et peut déjuger les experts, et tout cela se fait dans un anonymat dévastateur. Parler ne signifie plus se parler. Chacun parle à lui-même ou à un agrégat de clones, à un groupe dont le ciment est de partager le même avis. S'il n'y a pas d'échange et qu'on s'attaque les uns ad nominem pour ce qu'ils sont, leur nationalité, leur religion, leur opinion, cette parole, qui n'admet aucune réplique, ne peut aboutir qu'à une impasse et donc à la violence. Il faut réapprendre à parler l'humain. Philippe Meyer, journaliste, revient sur la séquence du débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Parlement et philippique ne sont plus que des bruits de bouche et tes discours des somnifères. Les bourgeois d'aujourd'hui parlent un patois dont les chanteurs des goguettes, c'est un groupe, un trio, mais ils sont quatre, tu connais, tu as l'air de connaître les
gars. Pas du tout, non.
Ah bon, ben voilà, il va falloir chercher ça. Ont épinglé le ridicule. Un procès 100%, alors ce sont les paroles d'une chanson, hein. Un procès 100% e-business à partir de segments qui ne sont pas confusants, du e-learning issu d'un brainstorming qu'un débriefing a rendu opérant. Alors, l'école peut armer les élèves contre de telles impostures. Elle peut le faire en leur donnant en partage le plaisir et la force de trouver l'expression juste, le mot qui exprime exactement une pensée ou un sentiment. Camus, dans « L'homme révolté », avait écrit « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. » Un philosophe, Brice Parrain, précise « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. » Il sait que la grande tâche de l'homme est de ne pas servir le mensonge. Alors je vous laisse découvrir le poster intitulé « Cause toujours ». Quatre chroniqueurs écrivent sur les nouvelles façons de communiquer à l'ère du numérique et encore sur les échanges musclés à l'Assemblée. Ça, on ne s'en lasse pas. Sur le goût des mots et sur leur incertitude qui nous trouble et nous enchante.
Afghanistan, des cours en ligne pour les femmes, Israël, le monde entier témoin de la haine des colons, santé, l'urgence mondiale, rencontre, la photographe Nan Goldin. On découvre ces quatre titres sur la couverture de Courrier International. Tu portes toujours beaucoup d'intérêt aux couvertures des hebdos, Arlette.
Et oui, comme à la une du Canard. Bah oui, c'est vrai, quand on entre chez le marchand de journaux, c'est ce qu'on voit. L'image attire, les titres informent sur les sujets traités. La couve est donc, à mon avis, très importante. Je sais en regardant la couve de Courrier International, par exemple, que le principal thème de la semaine, c'est la santé. Claire Carrard, dans son édito, précise « Partout, la pandémie du Covid-19 a servi de révélateur. Les soignants sont souvent à bout et les systèmes de santé sont dans un état critique. Sous-financés, sous-dimensionnés, ils ne parviennent plus à prendre en charge des patients de plus en plus nombreux et qui vieillissent. » Partout. Les articles de ce dossier viennent de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, de Chine. Ils décrivent l'état de crise des systèmes de santé dans tous ces pays, mais aussi qu'il y a une exception. Dans ce marasme, la Norvège, où chaque citoyen a son généraliste, fait figure d'exception, analyse Dagens Nyheter. Et le dossier révèle aussi que les malades sont au nord, les soignants au sud. C'est ce que dénonce le site The African Exponent au Zimbabwe. En Italie, face à la pénurie de personnel, la Calabre a décidé de faire appel à 500 praticiens cubains. Le Conseil international des infirmières a récemment tiré la sonnette d'alarme. Le recrutement par les pays riches de personnel issu des pays du sud pèse désormais largement sur les systèmes de santé de ces derniers. L'urgence, décidément, est bien mondiale. Le titre sur l'éducation en ligne des Afghanes m'a aussi attiré, en page 18, un article du site d'information anglophone Gandhara à Kaboul nous apprend que, peu à peu privés d'éducation secondaire et universitaire par les talibans, un nombre croissant de femmes afghanes trouvent sur Internet la possibilité de suivre des cours et même d'obtenir un diplôme.
Le graphiste qui a réalisé la couverture de Télérama, qui s'appelle Jim Cook, et il est drôlement doué.
Ah ben oui, je trouve aussi. Hein. Alors, pas facile d'illustrer le dossier de la semaine. Le titre, « Les robots au tableau ». Alors on voit la plume d'un stylo noir traverse la couverture jaune. L'œil de la plume est un petit robot stylisé. Ah, il est trop fort, ce Jim Cook. Et si la question posée « Intelligence artificielle à l'école » et « Si c'était bien » vous intéresse, c'est en page 20. Trois autres sujets ont retenu mon attention. « Seul contre tous ». En page 28, nous présente le film de Jean-Paul Salomé sur le combat d'une syndicaliste lanceuse d'alerte Isabelle Huppert interprète Maureen Kearney. L'invité de la semaine s'appelle, lui, Marco Bellecchio, grand cinéaste italien qui signe une série qui raconte l'assassinat en 1978 de l'ex-premier ministre Aldo Moro. Et enfin, la rubrique « Premier plan » nous remet en mémoire le nom de Missak Manouchian. Vous ne savez pas qui est Missak Manouchian ? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les immigrés étaient nombreux en France, comme aujourd'hui. Beaucoup sont entrés en résistance contre les nazis. Un de ces groupes communistes, les francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, FTP Moy, a été dirigé brièvement par Manoukian, avant d'être arrêté et torturé par la police de Vichy, puis livré aux nazis qui le fusillèrent avec 22 de ses camarades au Mont-Valérien le 21 février 1944. On a retenu son nom grâce à l'affiche rouge apposée dans tout Paris par la propagande allemande et comme le dit le poème d'Aragon, vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et il semble bien qu'Emmanuel Macron devrait faire entrer au Panthéon le résistant Manoukian au nom de tous ces étrangers, républicains espagnols, communistes italiens, juifs, polonais et hongrois également morts pour la liberté, à eux aussi, la patrie doit sa reconnaissance. Et moi j'ajoute qu'il faut s'en souvenir, alors que dans certaines villes de la France d'aujourd'hui, les fascistes d'Éric Zemmour manifestent contre l'hébergement des immigrés.
La couverture de l'Express est particulièrement anxiogène.
Alors sur un fond rouge et noir, un porte-avions en feu s'abîme dans une mer aussi rouge que le ciel. Alors le titre principal, Armée française, les scénarios noirs. Le sous-titre égrène, Russie, Chine, cyber, djihadisme, pardon. L'étendue des menaces. Dans le dossier, les chroniqueurs se lancent dans des scénarios plus catastrophiques les uns que les autres. 2026, les chars russes entrent en Estonie et en Lituanie. La zone est un point faible de l'OTAN. 2024, le Mali tombe aux mains des djihadistes. Un nouveau Daesh pourrait voir le jour. 2028, Madagascar reprend les îles éparses à la France. La Chine tire les ficelles. 2026, 4 missiles hypersoniques chinois font couler le porte-avions Charles de Gaulle. Ah bah oui, c'était lui sur la couverture, d'accord. Et pour finir, dans la chronique « Idées et débats », le chroniqueur Sylvain Faure enfonce le clou. Troisième guerre mondiale, climat, retraite, pitié pour la jeunesse de France. L'actualité est profondément anxiogène ou déprimante pour les adolescents. Allez, bonne nuit les petits.
Pour échapper à cette anxiété, Rob Bresny a concocté pour tous ceux qui sont nés sous le signe du poisson une véritable recette, c'est l'horoscope.
L'auteur et militant afro-américain William Edward Burghardt Dubois, poisson comme toi, nous invitait à toujours être prêts à renoncer à ce que nous sommes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet de nous transformer en une version plus profonde et plus forte de nous-mêmes. Je suis sûre que ce mantra peut te faire le plus grand bien. Les astres me disent que tu es prêt à croître en soustrayant, à gagner en puissance, en t'allégeant de ce qui n'a plus de raison d'être. Alors je te propose 4 étapes. 1. Identifie les images négatives que tu as de toi et débarrasse-t'en. 2. Visualise quelque chose de familier qui te pèse et jette ce quelque chose aux oubliettes. 3. Fais une croix sur une activité qui t'ennuie. 4. Renonce à une chose qui te fait perdre ton temps.
Campus Bordeaux 88.1.